rappelle que vous aviez un chapitre à préparer pour cela. C'était lequel ?
Clémentine,
très bien. Et à part ça, il y a le sujet de la nuit d'étude. Bon, ça, on pourra le rattraper. Peut-être, Chabert.
On peut connaître le sujet ?
Vous allez faire une page, quelques livres de camarades. Et alors, pour ça, rappelez-moi qu'avant la fin du cours, de demain, le mercredi, que je vous donne un verset à préparer pour ce cours de Talmud de Shabbat. J'espère que je pourrai venir. Et ce moment, bon, alors vous reprenez votre chapitre 4, et nous avons donc commencé l'histoire des rapports entre Caïn et Abel. Et ensuite, on essaiera de l'analyser un peu plus profondément pour pouvoir aller plus rapidement, parce que j'ai l'impression qu'au rythme où on va, on n'arrivera jamais avant la fin de l'année à Abraham, et il faudrait arriver à Abraham d'ici à peu près 2 ou 3 cours. Et effectivement, on pourrait rester 10 ans sur chaque verset, comme vous avez dû remarquer. Alors il faudrait aller un peu plus rapidement malgré tout. Ça ne veut pas dire que s'il y a des questions qui se posent à vous, il ne faut pas vous les poser, mais posez-les vous. Et puis, vous les notez quelque part. Certaines d'entre elles finiront par se résorber toutes seules, et d'autres, on pourra les étudier dans d'autres occasions. Mais que le plan général puisse être suivi rapidement, sinon vous risquez de vous perdre dans les détails. Il faut que vous ayez des structures claires, sinon ça risque d'être un peu trop sous-barre, compliqué. Bon. Voilà, je vais partir par une remarque que nous n'avons pas encore formulée de cette manière, mais qui va nous permettre de situer le sujet. C'est-à-dire dans tous ces récits qui sont une préface à la Torah comme loi, un sujet que nous étudierons d'autre part, c'est une question, et on est tellement familier, ce que je vous répète souvent, on ne se rend pas compte de cette question, le livre de la Torah devrait être en principe un livre de code, un livre de mitzvot, de commandements, d'articles de la loi. Et voilà, dans ce livre de la loi, il y a une longue préface historique qui commence à la création du monde, qui passe par toute l'histoire de l'humanité depuis le premier homme jusqu'au temps de la sortie d'Égypte, où Israël se constitue comme peuple et reçoit la Torah. C'est un sujet qu'on étudiera d'autre part. Et quel est l'objet de ce récit historique dans un livre qui apparemment devrait être essentiellement un code? Est-ce que c'est clair? Si vous voulez, ne serait-ce qu'au niveau des genres littéraires, ce sont deux genres littéraires radicalement différents. On est tellement habitué à trouver ces deux ensembles de textes dans le même livre qu'on se dit ça va de soi, ça va pas de soi, une fois de plus. Mais en tout cas, un des objectifs de ce récit de l'histoire est, vous vous rappelez de l'étude du monde Toladot, vous vous rappelez de ça. Toladot, c'est pas tellement l'histoire des événements, c'est l'histoire du sujet des événements. Vous vous rappelez de ça. Eh bien, un des objectifs de toute cette histoire des Toladot, c'est au fond de nous donner notre carte d'identité humaine, c'est-à-dire qui sommes-nous en tant qu'hommes. Et à un certain moment, nous devenons, du dedans de l'identité humaine générale, l'identité Israël. Et en fin de compte, cette identité Israël a sa propre histoire, qui ne s'arrête pas au temps de la sortie d'Égypte, qui a continué jusqu'à nous. Et l'objet de ce cours, c'est d'arriver à nous connaître, autant que se peut, si rapidement qu'on va le faire cette année, depuis le premier homme jusqu'à nous, chacun d'entre nous. C'est ça l'objet de cette étude. Alors je vais prendre comme postulat la définition suivante, c'est que tout se passe comme si, à travers l'histoire, vas-y. À travers l'histoire humaine, du premier homme jusqu'à nous, ce sont des thèmes d'identité de l'homme qui nous sont décrits, mais que ces thèmes sont en nous. Ce n'est pas simplement une histoire extérieure de l'humanité comme corps général de l'être humain dans l'histoire objective. C'est sûr, il y a ce récit-là. C'est le pshat. Vous êtes déjà habitué à ce terme, pshat? C'est le sens direct. Pashut. Okay. Ne croyez pas d'ailleurs que le pshat est pashut. Enfin, vous avez remarqué, qu'est-ce qu'il faut étudier pour arriver à traduire un verset? Et on appelle ça le pshat. Alors juste là, qu'est-ce qu'on lisait? L'infra-pshat. Et de ça, je vous parlerai le jour. Mais indépendamment, si vous voulez, de ce sens évident, dévoilé, de l'histoire de ces êtres qui ont existé, qui ont été nos ancêtres jusqu'à nous, chacun d'entre nous. Eh bien, c'est notre histoire à nous, de notre vie intérieure, de notre identité intérieure qui nous est décrite. C'est-à-dire chacun d'entre nous est d'abord Adam, dans la couche la plus fondamentale. Et qui c'est Adam? Ce sujet, on l'étudiera à la fin. Les premiers chapitres, je vous ai dit, on l'étudiera à la fin. Et nous avons commencé à la deuxième couche. La deuxième couche, c'est l'équation Caïn-Abel. Et ensuite, nous allons voir cette équation se développer. Qu'est-ce qui se développe à travers toute cette équation? C'est un problème essentiel, parmi d'autres, mais un problème essentiel. C'est l'émergence de la conscience morale. Est-ce que c'est clair? Voilà donc si vous voulez notre objectif. C'est cette ligne de lecture que nous allons suivre. Ces mêmes textes, nous pourrions les étudier une autre année, d'autre part, avec une autre ligne de force, avec une autre ligne de lecture. Mais la ligne de lecture que nous allons suivre, c'est celle-là. Qu'advient-il dans le développement de l'identité humaine et toute cette histoire des ancêtres? Nous allons l'étudier comme notre propre préhistoire personnelle, hérédité personnelle, je veux dire. Est-ce que c'est clair? Vous connaissez le terme de paléontogénèse? Comment tu dis? Non, genèse. Paléontogénèse. Okay. C'est-à-dire la genèse des événements depuis l'origine. Okay. Depuis l'origine préhistorique. Eh bien, parlons, si vous voulez, d'une paléontogénèse et de l'hérédité de chacun. Est-ce que c'est clair? Et nous ne naissons pas de rien, nous naissons chacun d'une lignée, mais qui a son origine dans la même souche de l'identité humaine, premièrement Adam, deuxièmement Caïn et Abel, troisièmement etc. C'est clair? Et vous suivez donc ces générations, dans le sens strict, de l'identité qui fait finalement l'homme que nous sommes. Et alors nous suivons cette ligne de lecture. Les différents termes de cette ligne de lecture qui est l'émergence de la conscience morale, à un certain moment elle s'appellera Israël, elle commencera par s'appeler Abraham, ensuite Isaac, ensuite Jacob. J'ai choisi comme sujet d'étude cette année, pour vous, et je pense que l'expérience montre que c'est une des premières préfaces essentielles à l'étude de la Torah dans ce sens-là. Encore une fois, pas la Torah comme code, ça c'est d'autres codes, mais la Torah comme le récit de l'histoire. Ce qui arrive de la relation à autrui, que je vous appellerai de termes différents, la relation de fraternité, dans le sens philosophique, la relation d'altérité, vous connaissez ce terme, altérité, la relation à autrui. Ne comprenez pas avec altération. Parce que devenir autre, étymologiquement, ça veut dire s'altérer. Quand on est altéré. Non. Mais nous verrons la relation entre les deux termes d'ailleurs, qui viennent du même mot latin, alter. Et alors, les premiers récits que nous sommes en train de lire, nous savons déjà qu'il y a un échec. C'est-à-dire, l'équation fondamentale qui nous est donnée, c'est dès qu'il y a deux hommes, ils sont frères jumeaux, apparemment. Il y a une discussion à ce sujet, c'est pas évident qu'ils soient vraiment jumeaux, dans le sens des vrais jumeaux. Mais c'est pour nous indiquer une indication morale importante que toute relation d'altérité entre deux hommes est une relation de fraternité et plus que fraternité, de jumélité. Et par conséquent, c'est comme ça qu'on dit? Bon, vous comprenez l'idée. Bon. Et par conséquent, on devrait s'attendre, la raison simple, s'attendrait à ce que si deux sujets humains sont tellement semblables que la Torah nous les décrit à l'origine, comme s'ils étaient des jumeaux, eh bien que tout aille très bien. Au contraire, tout va très mal. Et voilà que nous rencontrons un premier thème qui est un échec. Dès qu'il y a relation des sujets, vous rappelez l'équation que nous avons étudiée, sujet, dès qu'il y a relation de sujets, le problème social est posé, le problème de la société humaine est posé. Et voilà qu'il n'a pas d'issue, il n'a pas de solution. Voilà, nous étions partis de cela. Et donc on va commencer à lire un récit très pessimiste. Il va arriver au déluge. Finalement, l'humanité va faire d'elle-même un monstre tel que le monde devient invivable, que a posteriori il se dévoile qu'il n'y avait aucune raison de l'avoir créé, alors on l'efface. Et on recommence. Avec Noir, qui est le rescapé, un individu rescapé de toute une humanité. Et si on fait un effort d'imagination, j'essaie de vous renforcer ce pessimisme avant de l'atténuer. Toutes les cultures, toutes les sociétés, toutes les vies individuelles, tous les romans qui ont pu avoir lieu dans toute cette première période de l'humanité, tout ça est effacé par le déluge, parce qu'il y a eu échec d'une équation de départ, Caïn et Abel. Et nous avons suivi toutes les tentatives pour la résoudre, mais il faut évacuer cette impression de pessimisme qui va s'accuser au fur et à mesure qu'on rentrera dans l'étude. Parce que ça va être tellement cohérent, tellement évident que c'est comme ça que ça s'est passé, qu'on risque de penser que c'est comme ça que ça devait se passer. Je vous ai déjà parlé de cette impression, je vous en parlais souvent parce qu'elle revient chaque fois. Et la ligne d'étude que nous allons avoir, j'espère finir cela aujourd'hui et demain, je suis un peu optimiste, je vais essayer de pétiner, c'est va apparaître une dimension inattendue. Il y a échec. Caïn et Abel n'arrivent pas à fraterniser dans le sens strict. Résultat, Caïn va supprimer Abel. C'est bien. Lisons un peu les détails du texte, mais enfin, familiarisez-vous au moins avec la lecture du chat. Nous étions arrivés au point où nous avons lu deux dimensions. La relation à autrui, Caïn serait lié à Abel comme à celui qui est en plus. Vous vous rappelez de cela? Tant qu'il ne le gêne pas, ça va très bien, mais dès qu'il y a compétition, il y a gêne, il le supprime. D'où vient cette compétition? C'est une compétition théologique. Au niveau théologique de la relation à Dieu, il y a disqualification de Caïn par rapport à Abel. Nous nous sommes posé beaucoup de questions à ce sujet, certaines sont restées encore en suspens d'ailleurs, on les retrouvera, mais je voudrais aller un peu plus rapidement. Et donc, résultat, frustration, colère de Caïn, querelle, et nous voyons que Caïn supprime Abel. Alors là va apparaître une dimension inattendue, qui est la dimension du sursis. Et c'est un premier élément d'optimisme, si vous voulez, qui rentre dans le monde. Nous allons voir que cet assassin, mais nous ne savons pas encore s'il est assassin, peut-être qu'il est innocent, peut-être, en ce sens que peut-être il est simplement justicier, peut-être qu'il n'a pas supprimé le frère, mais qu'il a supprimé le faux frère, le mauvais berger. Et donc c'est un acte de justice, et non pas un crime. Tout cela, il faut qu'un jugement le dise. Est-ce que c'est clair? Or, c'est la raison pour laquelle Caïn va être tout de suite protégé par un sursis, un premier sursis qui est le jugement. Il faut que le jugement dise qu'est-ce qui s'est passé vraiment. Je crois que c'était à ce point d'analyse que nous sommes arrivés. Et vous voyez à quel point il faut être prudent lorsqu'on regarde de l'extérieur des événements qui mettent en jeu deux personnes. Au fond, les mêmes actes peuvent avoir une lecture radicalement différente. Donc il faut un jugement. J'essaie de vous décrire cela, et tout de suite on va rentrer dans le texte. Et alors je vous donnerai, nous allons apprendre que jusqu'au déluge, il y a sept sursis différents. Sept types de sursis donnés à l'humanité. Donc on ne peut pas être plus gentil avec les méchants que ça. Je ne sais pas comment dire, c'est pas ça. C'est-à-dire Dieu a donné à l'homme une équation très difficile à résoudre. Peut-être impossible. Je dis peut-être, ne vous affolez pas. C'est quand même la Bible qu'on lit. La Bible est un livre optimiste, mais il commence par un récit terriblement pessimiste. Dès qu'on a compris que c'est l'équation Caïn-Abel qui joue dans l'histoire, il y a de quoi être pessimiste. Parce qu'on voit bien que jusqu'à nous, il n'y a pas de solution. Vous voyez, c'est cette même équation qui joue. Et cependant, nous allons voir que cette dimension du sursis est très importante. Et elle correspond à un des attributs de l'idée de Dieu dans le judaïsme, qui est l'attribut de patience. Il s'appelle en hébreu, vous allez quand même apprendre ce mot. Non, ça va nous, ça nous la sort nous. Ça va nous, c'est la patience pénible. C'est bon. Pour ceux qui connaissent l'hébreu, ça va nous, ça veut dire la patience. Mais c'est la patience de quelqu'un qui supporte, par exemple, la patience du patient d'un médecin. Quand on dit un malade, on appelle un patient. Ce genre de patience-là. En réalité, c'est le médecin qui est patient, il y a de l'humour du langage. Bien. Donc, si des gens ont fait un peu d'hébreu, savlanou, c'est la patience dans le sens de supporter un fardeau. Sevel. Isbol. Comment dit-on la tolérance? Sovranu. Vous voyez la différence? Alors, apprenez ces deux mots. Sovranu, c'est tolérer quelqu'un, et c'est un sens négatif de l'idée de tolérance. Ça veut dire le supporter. Cette tolérance-là, c'est négatif. Est-ce que c'est clair? Méfiez-vous des idées qui apparaissent comme positives et qui sont négatives. De quelqu'un qui n'est pas tolérant. Eh bien, peut-être que c'est une vertu de ne pas être tolérant dans le sens où il n'arrive pas à supporter telle ou telle chose. Vous avez compris le problème. Et alors, ça va nous, ça va. Non, mais dans les voies de la Bible, c'est cette idée de la patience, une patience infinie, mais qui a cependant un terme dans le temps. Je veux dire, du point de vue de la qualité, la patience est infinie ou n'est pas. C'est comme pour beaucoup de vertus. Ou elles sont infinies ou elles ne sont pas. Il y a peut-être toutes les vertus. Donnez-moi un exemple. Une vertu qui, si elle n'est pas infinie, totale, n'est pas là. Et cependant, ça a un terme dans le temps, dans la chronologie. Et un rendez-vous qui donne la patience. La générosité. Comment vous dites en hébreu? À quoi vous pensez en hébreu? Si chesed n'est pas infini, c'est pas chesed. Un chesed calculé, c'est pas chesed. Quelqu'un qui donne, donne tout. S'il donne un peu, ceux qui ne donnent pas, on calcule, c'est autre chose. On est compris. On apprendra que celui qui donne tout, c'est un fou. C'est autre chose. Mais la tendance à donner, c'est donner. Mais j'attends le mot. Quelle est la vertu? Si elle n'est pas infinie, ça sera un peu comme précédent. L'amour, quel est l'amour? Et tout ce qui va dans ce sens-là. Par exemple, la confiance. Si la confiance n'est pas totale, elle n'est pas là. Une confiance calculée, un poison, c'est plus une confiance. Vous avez compris le problème? Bien. Alors, je reviens à notre. Il y a une patience. On pourrait appeler ça dans un langage purement immanentiste, disons non théologique, une patience de l'histoire qui est pire. Quand on voit encore ça dans certaines hiérarchies, quand on voit ce qui se passe dans le monde, et que ça dure, et qu'il y a quelque part une patience infinie. Vous voyez ce que je veux dire? Bon. Voilà, ça vous fait comprendre cette dimension du sursis. A priori, nous aurions dû nous attendre à cela. Cette histoire que Dieu, l'être parfait, met en jeu dans le monde, a priori, nous pouvions nous attendre à ça que c'est une équation difficile, peut-être impossible à résoudre, Caïn Abel, puisqu'on va apprendre que chez l'égoïme en général, on n'a pas trouvé de solution. Dès qu'Abraham va apparaître, une espérance contre la mort. Mais ça, on verra plus tard, probablement dans le monde pourri. C'est pas une histoire de pourri, mais vrai. Une sorte de compensation doit être donnée. Lorsqu'on a un problème difficile à résoudre, la compensation est a priori donnée. Sinon, il y a injustice. Alors donc, la dimension du sursis est à la hauteur de la difficulté du problème à résoudre. Et on va voir que c'est précisément Caïn qui est protégé par ce sursis. Tout de suite. Alors je donnerai, avant la fin du cours, rappelez-moi, les versets que vous aurez explorés pour demain matin, les sept sursis jusqu'au début. Et on va voir que le septième sursis, n'est pas efficace. On arrive à la fin, erreur de début. Mais sept fois, et c'est pas par hasard que le chiffre 7, ça correspond à une structure importante, mais ne dites pas symbolique, parce que le symbolique, ça veut dire que ça n'a pas de sens, qu'on est à la lenteur, c'est significatif, pas symbolique. On est un symbole, c'est quelque chose qui n'a pas de sens, c'est ce qu'on voulait d'un sens. C'est ça un symbole. Okay. Ce mot n'existe pas en hébreu, c'est un mot grec. Ils ont un signe, dans le sens de significatif, une signification. Donc c'est significatif qui est sept sursis. Et l'humanité va gaspiller les sursis un après l'autre jusqu'au bout, et finalement le déluge arrive. Mais encore une fois, évacué, au moins par son sculard, l'impression de pessimisme que nous avons du récit lorsqu'on le lit a posteriori. Parce qu'à chaque pas, l'espérance renaît, avec le sursis. Est-ce que c'est clair? Vous avez bien compris ça? Bon, je vous demande. Pardon? Oui, je vais. Mais avant ça, je vais vous donner un exemple. Et donc, je vous demande vraiment de faire attention à ça. Alors, une assaise intellectuelle personnelle ne suivait pas cette analyse avec la notion de fatalité, parce que les événements que nous allons rencontrer dans le texte ressemblent tellement à ce que nous vivons actuellement qu'on risque d'être affolés. Puis, de toute façon, nous sommes encore dans un sursis, je ne dirais pas lequel, mais nous sommes encore en sursis. Alors, pour bien comprendre cette notion de sursis, retenez la notion de patience, okay, et je vais vous donner le terme du micro-tabouille. Alors, on dit de quelqu'un qui est patient, il est Erre Afaï. Littéralement, ça veut dire le visage long. C'est pourquoi les traducteurs littéraires traduisent ce terme par longanimité. De temps en temps, on va faire comme ça un peu de coquetterie de français littéraire. Hein. Longanimité. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ce mot est rentré dans le français. La longanimité, peut-être qu'elle a été inventée par le traducteur littéraire. La longanimité, ça veut dire l'allongement du temps du sursis donné, l'allongement de la patience. En hébreu, on dit patient, on dit le long visage. On dit impatient, on dit le visage court. Ça ressemble un peu à un langage d'Aniel, le visage pâle. Bon, je n'ai pas les mains à la main, c'est compliqué, mais vous retenez ce que je dis. Faites la différence avec Sabanouk. Sabanouk, c'est une patience de Ralouz, c'est-à-dire de Kibouknik. C'est une patience de quelqu'un qui supporte. On supporte, mais on supporte. Et le Fafaïm, c'est la gentillesse de la patience. Vous voyez la différence. C'est pas la première fois que je l'emploie ce mot-là en français, mais c'est un mot très important. C'est un des mots les plus nobles de la langue française, la gentillesse. Être gentil, dans le sens de l'étymologie. En hébreu, on disait tout simplement ben adam. Être un ben adam, comme on dit en yiddish. Non, c'est pas ça en yiddish. À part tous les deux. Et ça veut dire les gens bien. Comment on dit ça en arabe? Madame, non, ça c'est en judéo arabe, en arabe manage. Nas. Bon, alors on revient au. J'aimerais vous donner maintenant un exemple. Vous voyez? Étant donné que l'équation que nous avons à résoudre est si difficile, alors il y a une compensation a priori. C'est le sursis, la patience. Okay? Je vais vous donner un exemple qui porte sur l'ensemble du problème moral. Étant donné que la loi est difficile, alors il y a une compensation qui est donnée a priori. C'est quoi? Très bien. Que le repentir est possible. Or, c'est pas évident, ça va pas de soi, c'est pas rationnel. Hein? Parce qu'une faute, c'est une faute. L'idée qu'on puisse se repentir d'une faute est une idée antirationnelle. Ça, nous dirons dans les plus grands idées de la même chose. Vous voyez, ça fonctionne de la même manière. On découvre d'abord le problème à résoudre. Et on le découvre dans une difficulté insurmontable. Et vous aurez cette expérience, vous découvrirez la notion de la loi morale aussi prise au sérieux, c'est la panique, écrasante. Évidemment, la découvrir sans l'a priori de la compensation, c'est un manque de nouveau. La loi nous est donnée, mais avec un a priori. Que s'il y a faute, nous avons droit à la clause du repentir. Est-ce que c'est fait? De la même manière. Que s'il y a échec, nous avons droit à la clause du sursis. Réfléchissez bien. Alors là, vous avez une dimension d'optimisme total qui rentre dans les catégories bibliques. C'est clair? Seulement, il y a un terme. Comme il y a un terme à la capacité de repentir. Il arrive à un stade, l'entêtement dans la faute, c'est qu'on n'est même plus capable de se repentir. Alors ça, c'est le châtiment suprême. À qui c'est arrivé dans l'histoire? Que la bande David? Aux parents. Finalement, quelle a été sa punition ultime? Incapable de se repentir. J'ai eu cette impression, juste une expérience personnelle, au procès de Herman. Finalement, ça je parlais un jour quand on parlait de ces problèmes, finalement, c'était stupéfiant ce qui s'est passé. Le monde entier a assisté à une scène qu'il a fait sans doute pas comprendre. Voilà, ces Européens civilisés qui avaient fait ça sont incapables de se reprendre. Une disqualification d'une civilisation. Rappelez ce qui s'est passé. Discutez pas à pas si on pouvait lui reprocher une faute de métier. Est-ce que j'ai mal fait mon travail? Sache que je suis prêt à payer. Faute morale, de quoi on parle? Vous savez de qui je parle. Donc, vous voyez ce genre de blocage de la conscience totale. Hein? Alors ça, c'est vraiment, je crois que la scène, bien inversée des prophètes qui indiquent ce genre de choses. Un jour, le monde entier découvrira la disqualification de toute une civilisation qui s'est attaquée à Israël. Finalement, la civilisation romaine tout entière est jugée dans le prochain échange. Voilà ce que c'est que le droit dans ce genre de civilisation. À qui on donne un avocat pour discuter de savoir s'il a fait une faute de métier, de quoi on parle. Et tout le rescapé des campiers des monastères, c'est la nullité devant le fait que l'avocat allemand, qui plaidait pour Eichmann, discutait pied à pied pour convaincre les juges que cet homme était innocent des fautes de métier. On le voit, il a bien fait son travail. C'est pas si vous rendez compte du délire. Bon. Stop. Alors, on arrive à ça. Et je vous dis un exposé d'un Kelly. Vous avez entendu parler d'un Kelly? Un très grand philosophe contemporain, Vladimir, d'origine russe, il avait une haine spéciale du coup avec les Prussiens, et il avait fait un exposé sur la culture allemande, il avait mis en évidence, c'était un exposé un peu orienté, il cherchait à démontrer quelque chose. Et dans toute la culture allemande, on trouve cette incapacité du repentir. Bon, c'est pas que les Allemands sont une tarte particulière, c'est quelque chose qui s'attache à la culture occidentale. C'est au paroxysme chez les Allemands ou chez d'autres, enfin c'est là que c'est arrivé dans l'histoire, une espèce d'incapacité d'admettre cette clause du repentir, et c'est la raison pour laquelle on refuse l'a priori de la loi morale humaine. Parce que si le repentir est impensable, si le repentir n'est pas possible, on ne peut pas accepter la loi morale. Parce qu'à la première faute, on est perdu. Si on ne peut pas se repentir. Cette panique devant la loi morale, que vous avez à la racine, dans la loi en tant que loi, vous avez à la racine de la civilisation chrétienne. Ça fonctionne comme ça dans la mentalité occidentale. On n'apprendra pas pourquoi. Je n'ai pas su. Voilà, vous avez donc à comprendre que chaque fois un problème à résoudre, vous devez donner une clause de compensation. Le problème à résoudre est peut-être inconnu, pessimiste. Mais la clause de compensation réintègre l'autre espérance. Okay? Alors, faites attention à cela, on va lire un récit où les 7 sursis donnés à l'humanité ont échoué. Alors, on arrive à un rendez-vous fatal, le début. Bon, ça y est, c'est clair? Voilà le sujet général que nous allons exposer.
Alors, on commence par le premier sursis qui a été donné à Caïn. Vous allez le prendre à partir du verset. Ça, c'est donc votre première référence des 7 sursis. Vous mettrez ça en tableau. Et... Nous étions arrivés au verset. À la fin du verset 8. Bon, c'est dommage qu'on n'ait pas le temps de lire en détail tout ce qu'il y a dans les versets qui suivent. Peut-être Shabbat, on prendra un petit moment pour lire ça. Mais en tout cas, vous avez besoin maintenant pour ce thème-là, à partir du verset 13. Alors, suivez avec moi à partir du verset 13. Rappelez-moi, en tout cas, que Shabbat, on prenne un petit moment, on portera au moins sur le verset où Caïn dit à Dieu, « Achomer achianochi ». Est-ce que je suis le gardien de mon frère? Vous rappelez? Bien. Vous y êtes? Alors, verset 13, du Givan. Lorsque Dieu indique à Caïn, que c'est fait comprendre à Caïn, Caïn s'en rend compte a posteriori de l'acte, quand c'est trop tard, que c'est un mal qu'il a fait en supprimant l'autre. Et nous verrons que toute la civilisation de Caïn va être entachée de cela. Ils fondent une civilisation basée sur le principe de la suppression d'autrui. basé sur le principe de l'équation sujet-objet, moi-sujet, toi-objet. Cette civilisation-là qui va se développer. Et c'est à cette civilisation-là qu'on va donner tous ces sursis. Okay. Alors, à ce moment-là, Caïn se rend compte que ça va mal pour lui. Alors, il dit, Vayomer Caïn. Et Caïn dit, et l'Hachem à Dieu, Gadol Avoni Minese. Ma faute est trop grande pour être... Oui. Les deux sens sont exacts. Porter ou pardonner. Gadol Avoni Minese. Oui. Résistance à quoi ici? Je viens de parler de ça pendant un quart d'heure. Résistance à quoi? Il dit, ma faute est trop grande pour être portée, supportée, enlevée, pardonnée. Ce Caïn est très chrétien, dès le début. Okay. Et voilà comment Rachid l'explique. Et peut-être que Rachid pensait à cela, à la controverse que nous avons avec les chrétiens. Regardez, je relis le verset. Gadol avoni minese. Et ma faute est trop grande pour que je la porte moi. Décharge-moi d'elle, porte-la toi. Et Dieu lui répond, le monde entier je porte, ta faute tu portes toi. Okay. Ça veut dire résistance à l'idée du repentir. Vous voulez qu'on lise Rachid? Alors si je me souviens bien, c'était bien que Rachid dit ça, je pense. Rachid en même temps rend ce Caïn un peu plus intelligent, mais d'emblée il le rend chrétien. Vous voyez le problème? Et comment a fonctionné la conscience chrétienne? L'homme est pécheur, maudit, incapable de porter la loi morale. Il faut que Dieu lui-même, par une stratégie magique, prenne nos fautes sur lui, pour que nous soyons libérés. Et le judaïsme répond, Dieu porte le monde entier, ta faute porte la toi. Sois capable de te repentir. Vous avez vu le mécanisme? Alors, pourquoi je vous parlerai souvent du christianisme, chaque fois qu'on rencontrera tel point de controverse précise. Et nous verrons à quel point la conscience chrétienne a dû inventer un mythe magique pour essayer d'être sauvé de la loi morale. Pourquoi? Parce qu'il y a une résistance à l'idée de repentir. Est-ce que c'est clair? Gadol Avoni Minese. Et alors je vous lis Rachid, suivez avec moi. Rachid dit, il ne faut pas lire ça comme une plainte, une affirmation plaintive, une découverte. Ma faute est trop grande pour être supportée, je suis perdu. Attendez, évacuez d'abord toutes les imageries qui nous viennent de la justice poursuivant le crime. Vous voyez les imageries de mythologie grecque sur Caïn, Caïn s'enfuyant derrière la vengeance des furies. Vous avez vu ces tableaux-là? Non, Caïn est déploré. Quand il se rend compte ce qu'il a fait, une fois que c'est trop tard, il dit, je suis perdu. Je ne peux plus revenir en arrière. Elle dit, Gadol Avoni Minese, je suis perdu. C'est-à-dire, il découvre la conscience morale après la faute. Alors que Abel, lui, était capable de découvrir la conscience morale avant l'acte. Vous voyez la différence? C'est-à-dire, voilà le malheur de Caïn. Il devient moral, mais dans le remords. Une fois que c'est trop tard. Alors, Rachid dit, non, il ne faut pas lire comme ça. Il est mia. C'est une. Mazet Mia. Qu'est-ce que tu as dit? Non, Tmimut Zenaïsté. Tmia, c'est étonnement, stupéfaction. Il s'étonne, Caïn s'étonne. Bitmia, Ata, Toen, Aïonim et Tartonim. Toi, il s'adresse à Dieu en lui disant, toi tu supportes les êtres d'en haut et les êtres d'en bas. Varavoni, Yéchar et Khalidron. Et ma faute, tu ne peux pas la supporter, toi. Vous voyez? Comment? Oui, non, il fonctionne comme un goy, enfin comme un chrétien de façon précise. Il dit, comment tu me reproches ma faute, okay. Mais est-ce que tu ne peux pas toi la prendre sur toi? Vous voyez à peu près le problème? Comment il faut que j'expie ma faute moi-même? Est-ce que tu ne peux pas m'absoudre, okay, absolution? Et Dieu qui répond, absolument pas. Et voilà comment, continuez le verset 14, comment Caïn argumente. Hen gerashta oti hayo. Voilà, tu m'as exilé aujourd'hui. Exilé de la terre bénie. Okay? Puisque à partir du crime, la bénédiction se retire de la terre. Et l'agriculture va devenir difficile. Comme ça se dit. Retenez bien cette phrase. On la retrouvera plus tard. Hengerashtaoti ayom, voici tu m'as exilé, répudié, renvoyé aujourd'hui, mis à la porte, mais alpene adama, de dessus la face de la terre n'a plus de face pour moi. Il est vis attentivement. Umi panecha et sa terre. Et de ta face, je serai obligé de me cacher. Parce que celui qui porte en lui la faute a honte d'être devant la pureté. Est-ce que c'est clair? Ça veut dire il décrit de façon très profonde dans ses versets le malheur du remords. Et on pourrait, à partir de ces deux versets, déployer toute une littérature du malheur de la conscience. Non seulement le monde n'a plus de goût, mais j'aurai plus rendez-vous avec toi. Ve'aïti na'amana dva'aret, et je serai errant sur la terre. Ve'aïa kolmoti yahargeni. Et quiconque me trouvera, me tuera. Qui c'est ce quiconque? Il n'y avait personne. Il n'y avait personne, Abel a disparu. Qui? Non, ça c'est le Midrash qui va dire les animaux. Et vous savez ça, que les animaux sont très sensibles. C'est pas ça. Vous savez, je vous parle de ça un autre jour, il faut une heure. Vous savez rien. Je vous ai dit, il reste personne, il reste quelqu'un. Il reste même deux personnes. C'est-à-dire, et n'importe quelle autre identité humaine, et puis la matrice est encore là. Il y a un grand mystère dans tout ce récit. Qu'est-ce que faisaient les parents pendant tout ça? De ça, on se tient pas là. Et où ils étaient? Et alors, on arrive à notre verset, et c'est donc la première référence du premier sursis, le verset 15 du chapitre 4. Vayomer lo Hashem, alors Dieu lui dit, la haine, c'est pourquoi colore Caïm, quiconque tuera Caïm, point de suspension, Shiva Taïm Yukam, cette fois, il sera protégé. Caïm. C'est un verset un peu difficile à traduire directement en français. Il faudrait traduire, sera cette fois vengé. Ça veut dire que le sursis, je vous donne le sens, que le sursis va durer 7 générations. C'est-à-dire, Dieu va donner à Caïm 7 générations de sursis, et à la fin de 7 générations, on saura qui était Caïm, en jugeant les descendants. Ça veut dire, qu'est-ce qui sortira de toi, dira ce que tu étais. Vous suivez? Voilà quel est le sursis. Le sursis par l'histoire. Ce que je vous ai appelé tout à l'heure la patience de l'histoire.
Okay.
Ça veut dire, voilà le sens précis d'après l'objet. La haine, c'est pourquoi. Kol hore Caïn. Voici ce qui attend quiconque tuerait Caïn. Shivataim yukam. Sept fois il sera vengé, Caïn. Donc ça veut dire qu'il y a un sursis de sept fois. Je vais vous raconter une histoire. Comment Rome a été fondée? Romulus et Rémus. Et comment ça s'est passé?
Ils ont vu
la lune. Oui, la lune. Et un a tué l'autre. Okay. Et a fondé la cité romaine sur le meurtre du frère. Alors imaginons. Bon, c'est pas l'histoire de Rome qui est racontée ici, c'est pire. C'est l'histoire de toute cité fondée sur la suppression d'autrui. Mais regarde à quel point cette civilisation romaine se flatte que sa cité a été fondée sur ce mythe de Romulus et Rémus. C'est-à-dire Caïn tuera Abel. Alors que la Torah, elle, dénonce cela. Ça m'est revenu maintenant. Vous avez appris ça à l'école. C'était qui a fait du latin? On apprenait ça dans un livre qui s'appelait De Viris Illustribus. Ça existe encore? Le De Viris? Ah oui, ce fameux mythe, le lait de panthère, la loupe. Et alors voilà, comment la cité est fondée. Sur la suppression. Alors imaginons qu'un sursis de l'histoire est donné à Rome. Sur quoi Rome va juger? Sur qu'est-ce que son histoire fera? Et nous verrons, et c'est vraiment, ça fait frémir, que le signe est donné par la Torah. Okay. C'est un descendant de Caïn qui va juger son ancêtre. Et il s'appelle Tuval Caïn. Ouais. Tubal Caïn, dont la Torah nous dit qu'il a été le premier fabricant des armes. Le premier fabricant d'armes. Tubal Caïn, la mythologie grecque, en a fait Vulcain. C'est le forgeron. Et voilà. Qu'est-ce qui descend de Caïn ? Un certain Tubal Caïn, qui va forger la première arme. Et nous verrons immédiatement que la première arme va tuer le premier assassin. C'est-à-dire cette civilisation fondée sur la suppression d'autrui, on lui donne un sursis. Mais elle va être jugée sur ce qu'il en arrive. À la septième génération, sept de nouveau que nous avons ici, ça veut dire un temps d'histoire, et bien il se dévoile que c'était une civilisation fondée par des assassins. Et ça se dévoile à la fin. Qu'est-ce qui fait frémir ? C'est que c'est l'état actuel de la civilisation occidentale. J'ai remarqué à quel point c'est cette histoire que la Torah nous raconte. Est-ce que c'est clair ? Alors, en ce sens qu'effectivement, c'est une civilisation qui s'est vulcanisée. C'est des vulcains. Okay ? Ils fabriquent des armes. Qu'est-ce qu'ils font d'autre ? Et tout ça sort de Rome. C'est-à-dire Romulus et Vénus. Bon. Alors, on arrive maintenant au signe qui est donné à ce sursis. Ça, vous ajouterez donc cette clause. Chaque fois qu'il y a un sursis, un signe est donné. Quel est le signe ? La fin du verset. Alors, nous allons lire attentivement. Tu peux demander quelque chose ? Non, non, il ne faut pas croire, il faut être sûr. Tu vas voir ce que c'est. Vayasem, Hachem, les Caïn, hôte. Et Dieu plaça sur Caïn un signe, hôte. Comment parler ? Les multi hakototo kolmotso, afin que ne le frappe pas, que ne le tue pas, quiconque le rencontrerait. De quoi il s'agit ? Il s'agit, je reviens sur la définition du problème. Il s'agit du jugement. Je vais essayer de vous décrire cela, comment ça se passe dans les sociétés en général. Imaginez que quelque part se passe un crime. Tout de suite, la police intervient. Pourquoi faire ? Pour mettre le présumé coupable à l'abri dans une prison jusqu'à ce que le jugement se passe. C'est ce sursis. Okay. Alors on le met dans une maison, il y a écrit liberté, égalité, fraternité, puisqu'il était censé avoir violé ça. Okay. C'est-à-dire, on va le juger, on sait qu'il faut le protéger. C'est ce signe de protection. Ça y est, c'est clair ? Alors, d'après la Midrash, que cite Rashi, c'était le mot Emet qui était sur le front de Caïn. Emet. C'est-à-dire, la vérité doit dire qu'est-ce qui s'est passé vraiment. Alors, on va donner à l'histoire sept générations de sursis pour que la vérité dise qui est Caïn. Et c'est Tubal Caïn qui va révéler qui était son ancêtre Caïn. Vous voyez avec quel humour la Torah lui donne le nom de l'ancêtre. Okay. Tubal Caïn. Alors, il y a un plaidoyer énorme pour Tubal Caïn. C'est quoi ? Et ça me rappelle tout ce qui s'est passé, toute l'atmosphère de cette explosion de l'industrie occidentale pendant le temps de la guerre de 14-18. C'est là que ça a commencé. Si vous lisez ces récits, les usines Krupp en Allemagne, le Creusot en France, Schneider, vous vous rappelez tout cela, les hauts fourneaux, vous avez appris ça à l'école. Cette espèce de gloire de la civilisation occidentale, la grande industrie lourde. Et à quoi ça sert ? Justement, à permettre les grandes guerres. À faire des grandes guerres. Et c'est Tubal Caïn. Alors, plaidoyer de Tubal Caïn, on n'arrête pas le progrès, la civilisation en marche, la technique, le bonheur des hommes. Je ne sais pas si vous vous rendez compte dans quelle pièce de Kafka on se trouve. Quel bonheur des hommes ? La grande tuerie. Vous voyez ? Ça, c'est Tubal Caïn. Alors, Tubal Caïn disqualifie Caïn. Et je vais vous raconter comment la Torah, le Midrash, raconte cela. Alors, peut-être pas le temps de voir en détail dans le. À la septième génération, naissent quatre enfants. Quatre types d'hommes. Vous allez les lire tout de suite dans le chapitre 4 au verset 20. Voilà comment ça se passe. Alors, on avance un peu au chapitre 4, verset 19, verset 20. À la sixième génération, notez bien, et vous recoderez ça dans votre tableau, à la sixième génération, Le descendant de Caïn s'appelle Lémech. Lémech.